Bonne fin de soirée, bienvenue à l'Antichambre. On est avec vous pour les 30 prochaines minutes. En deuxième portion d'émission, Ray Lalonde sera avec nous pour sa chronique business du sport. Il sera notamment question du CF Montréal qui s'apprête à changer de logo une autre fois. Ce sera un des sujets de la chronique de Ray. Et on poursuit ce soir les 12 travaux de Kent Hughes avec Danny Dubé et Vincent Danfousse. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir. Salut, Luc.
On est rendu au travail numéro 3 et travail numéro 4. Mais d'abord, les manchettes à Albi Legeant. Et on commence avec Vincent ce soir.
Bien, moi, je vais parler de Romanov. Je crois que c'est une valeur sûre pour Kent Hughes et le Canadien. Donc, moi, j'ai aucun problème à signer ce gars-là à long terme. Contre 8 ans, un peu comme Suzuki, et commencer à bâtir un noyau de jeunes pour le futur, parce que moi, je vois pas le Canadien en séries éliminatoires à court terme. Donc, si on veut sécuriser les gars qui sont talentueux, puis on sait ce qu'on a, quand j'évalue Romanov, je vois un gars qui ne donne pas beaucoup de points, mais c'est un gars qui amène un aspect physique, c'est un gars qui frappe beaucoup, qui s'améliore à chaque mois, à chaque 2 mois, à chaque fois qu'il est sur la patinoire. Je trouve qu'il nous en donne un petit peu plus, il est moins risqué. Et avec le cap salarial qui monte dans les prochaines années, moi, j'aime mieux le sécuriser tout de suite que d'y aller avec un contrat pont. Je vais donner des comparables tantôt, mais...
Combien, hein? C'est ça la grande question. Combien?
On va en parler tantôt.
Bien, c'est pour ça. On va attendre un peu. Ce sera le travail numéro 4. Mais, Danny, ta manchette ce soir.
La priorité gardien de but. Je regarde la situation, évidemment, avec Carey Price, tout ce qui se passe autour... Jake Allen a été blessé aussi. C'est une position qui est névralgique. On voit dans les séries actuellement des gardiens de but numéro 3, plusieurs gardiens de but sans expérience qui actuellement sont dans la mêlée en première ronde. C'est très inhabituel. Ça veut dire que la profondeur du Canadien de Montréal devient un enjeu majeur à cette position-là. Et il y a beaucoup d'incertitudes et de points d'interrogation, particulièrement autour de Carey Price. Je vais vous parler un petit peu tout à l'heure. On va avoir l'occasion de discuter que des fois, tu es un petit peu l'artisan de ton malheur aussi.
Repêchage, hein, entre autres. Ouais. Donc, depuis hier, on a amorcé justement les 12 travaux de Kent Hughes. Hier, c'était la question des défenseurs avec échanger Jeff Petrie et dénicher un défenseur numéro 1. Le troisième travail dans la liste de Kent Hughes ce soir, c'est le dossier Price et l'avenir devant le filet. Danny, tu en as parlé un peu en entrée. Il y a de l'incertitude, mais cette incertitude, c'est Price qui décide de la suite des choses avec ses médecins. Est-ce que Kent Hughes n'a pas les mains liées présentement tant et aussi longtemps que, médicalement parlant, on n'a pas une réponse concernant Carey Price?
Bien, il a les mains liées, oui et non, parce que je pense pas qu'il y a besoin de régler le problème tout de suite. On peut pas faire des gestes drastiques sans savoir si Price va revenir. Par contre, je regarde à travers la Ligue, puis il y en a un, moi, qui m'intéresse, un gardien de but qui est disponible, c'est Ville-Husso, qui garde les buts en ce moment à Saint-Louis. C'est un jeune de 27 ans qui devient joueur autonome sans compensation. Bennington vient d'être signé pour 6 ans à 6 millions par saison. Fait que est-ce qu'ils veulent... C'est un gars qui a gagné la Coupe Stanley, puis il est même pas là en séries éliminatoires. Fait que Ville-Husso joue de l'excellent hockey. Est-ce qu'ils vont vouloir investir un autre 4-5 millions pour sécuriser ce gars-là, ou ils vont le laisser aller à la fin de l'année, puis il va vouloir jouer comme numéro 1 ailleurs? Fait que c'est peut-être une possibilité. Aujourd'hui, Ville-Husso fait le salaire minimum à 750 000. Fait que c'est un aubaine. Il va demander une grosse augmentation de salaire, mais quand même, c'est une possibilité où on peut se retrouver avec un possible numéro 1, si on l'évalue bien et on l'aime, ce gardien de but-là, il est disponible possiblement à la fin de la saison.
Parce que Danny, Kent Hughes a dit publiquement à la radio récemment, 91.9, il n'y a personne qui s'est imposé comme gardien numéro 1. Mais est-ce que tu as vraiment besoin d'un gardien numéro 1 dans la situation actuelle? Et en même temps, je rejoins les propos de Vincent, tu as besoin de penser à l'avenir, à l'après Carey Price. Donc, entre les deux...
Premièrement, il faut se poser la question, est-ce que l'avenir de Carey Price comme gardien de but du Canadien ou gardien de but dans la Ligue nationale, est-ce que son avenir est compromis? Est-ce que la blessure va mettre fin à sa carrière? Est-ce qu'il va avoir besoin d'une autre opération? Donc, tant qu'on n'a pas ces réponses-là, moi, je rejoins Vincent, là, tu peux quand même pas commencer à prendre des décisions sans avoir toute l'information. Mmh. C'est la pire des erreurs, c'est de prendre une décision alors que tu n'as pas toute l'information devant toi. Puis il y a des choses que le Canadien ne contrôle pas. Par contre, ce qu'il contrôle, c'est son repêchage et la suite des événements. Tout à l'heure, on va parler des joueurs autonomes avec restrictions. Montembeault en est un. Moi, je pense que Samuel Montembeault, dans les circonstances, devient une priorité pour être sûr de sécuriser, d'avoir deux gardiens.
Un duo, oui.
C'est un duo. Après ça, on sait bien que on revient encore à la même équation. Est-ce que le Canadien, c'est une équipe compétitive qui veut gagner la Coupe Stanley? Non. Bon, mais pourquoi investir sur un gardien à ce point-ci alors qu'on a la possibilité de faire travailler un jeune en compagnie de Jake Allen? Puis en cours de route, Allen est à la dernière année de son contrat. On va pouvoir réévaluer ça aussi. Et en terminant, je dis ceci, tantôt je disais, on est un petit peu l'artisan de notre malheur. Au cours des 10 dernières années, le Canadien a repêché 6 gardiens de but. Parmi les 6 gardiens, un seul parmi dans les 3 premières rondes, c'est Foucault-Ali, 36e au total en deuxième ronde. À part ça, ils ont repêché un Européen, 2 Américains et un autre joueur chez les juniors. Et dans chacun des cas, ça a été 5e, 6e ou 7e ronde. Alors, si M. Hughes va avoir un gardien de but d'avenir, il devra consentir à payer plus cher au repêchage, c'est-à-dire de repêcher plus tôt et plus qu'une fois. Parce que c'est pas vrai que tu décides qu'en deuxième ronde, tu en prends un, puis automatiquement, ça va devenir un gardien de la Ligue nationale. Puis quand c'est 16% de chance.
Oui, puis quand
c'est
tu 40% repêches.
40% en première ronde.
Exact. Quand tu repêches à 18 ans, il arrive à maturité, les gardiens à 23, 24, 25 ans.
Exact.
Donc, mais est-ce qu'on se pose, on doit se poser la question au niveau de l'organisation, à penser tout de suite à trouver la suite de Carey Price? Là, on avait identifié Kaelin Primo à un certain moment. Quelle sera la suite? Primo a son destin entre les mains.
Bien, pour revenir au propos de Danny, Primo, c'est un choix de 7e ronde.
Bien, c'est ça.
Puis tu as dit tantôt qu'un gardien de but vient à maturité à 23-24 ans. Fait que si tu repêches un gardien de but cet été, il ne sera pas prêt avant 4-5 ans. Si tu veux vraiment le développer comme il faut, finir son junior, envoyer dans les mineurs pendant 2-3 ans, et ensuite de ça, Carey Price va être rendu à 39 ans, peut-être qu'il ne sera plus là. Oui, moi, je pense que c'est la position la plus importante. Tu devrais bâtir avec un gardien de but solide. Puis on l'a vu, Eisenman, il a investi son premier choix l'année passée. Il y en a beaucoup qui commencent à regarder. Nashville est allé repêcher un gardien de but assez tôt, il y a 2 ans.
C'est vrai.
Donc, s'il y en a un disponible, peut-être pas en première ronde cette année, je pense pas que c'est une année exceptionnelle pour les gardiens de but, mais il y en a. Je pense que ça vaut la peine, avec le nombre de choix qu'on a, d'au moins essayer d'en choisir un, d'en sécuriser un. Si on l'aime, je ne connais pas l'évaluation des dépisteurs, mais d'une année à l'autre, c'est jamais pareil. Mais si on a un gardien de but disponible, c'est un besoin absolument. Là.
Et le raccourci, ça reste un joueur qui joue en Europe, un joueur plus vieux, qui domine, mais tu sais que c'est une solution à court terme. Bien, entre les deux, c'est peut-être le tampon que tu as besoin pour acheter un peu de temps. Si tu as repêché tout de suite cette année, tu repêches l'an prochain. Puis à la fin du contrat de Jake Allen, tu le prolonges d'une autre année ou 2 ans.
Avec Montembeau qui est là, ce duo-là.
Ou tu l'échanges.
Ou tu l'échanges.
Parce qu'on a vu ce que ça donne, les échanges à la fin de contrat. Pour comme Chiara, tu fais jouer Allen, si Price est blessé, puis tout d'un coup, il garde des buts. Il est incroyable. À la fin de rendu au mois de février, mars, il y a une grosse valeur que tu peux monnayer pour encore des choix de repêchage, des jeunes, aller chercher. Tu fais ça avec tes vétérans, puis éventuellement, après 2-3 ans, mais là, c'est le temps d'investir, puis d'aller signer tes jeunes, grossir ton noyau, puis
mais faire ça. Dépendant quel est l'horizon aussi de l'organisation. Est-ce que c'est 2-3 ans, est-ce que c'est 4 ans, 5 ans aussi?
C'est toujours le même vœu pieux. T'sais. On veut être dans les 10 meilleures équipes, on veut être dans les séries chaque année. Tout le monde veut ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a ce qu'ils veulent faire, puis il y a ce qu'ils peuvent faire. Parce que là, il y a des contrats, il y a beaucoup de lourdeur, il y a des échéances. Tantôt, Vincent mentionnait une affaire très importante. Pour les prochaines années, là, la fluctuation de plafond salarial n'aura pas. Là. Ça va rester comme ça. Fait que là, les gros contrats, tu vas avoir de la difficulté à t'en départir.
Et il y a Cole Caulfield qui s'en vient aussi. Puis ça va être. On aura la chance.
Sortie du noyau, là, lui aussi.
Exactement. C'est ça. Bon, bien, allons vers. Faisons suite à ta manchette concernant Alexander Romanov et les joueurs autonome avec compensation. C'est le travail numéro 4 de Kent Hughes que nous avons établi. On a préparé un tableau à ce sujet sur les joueurs autonomes avec compensation chez le Canadien. Alexander Romanov vient en tête de liste et il y a évidemment Samuel Montembeau. Revenons au dossier Romanov. Vincent, tu parlais de s'attacher avec lui, de lui offrir un contrat à long terme. Et là, on le chiffre à comment? Si on lui offre 8 ans, le maximum qui est permis, jusqu'à quelle hauteur on peut lui donner?
Tu peux essayer de l'attacher, selon moi, entre 4 et 4,5 millions par saison. Ça ne veut pas dire qu'il va dire oui, mais tu peux essayer. Parce que moi, je n'ai pas de problème à signer ce gars-là à long terme. C'est un gars qui aime l'hockey, qui aime jouer. Tout en premier, sa patinoire. Tu vois que c'est un joueur d'hockey. Il est enthousiaste. Tu regardes Brandon Carlo à Boston. Il vient de signer 6 ans à 4,1 millions par année. C'est un gars de 6 pieds 6, 220 livres. Sa plus grosse saison en 6 ans, il a eu 19 points. Bon, on peut dire qu'il n'est pas très productif, mais il est utile parce qu'il est physique, il brasse en avant du filet, il a des mises en échec. C'est un peu à l'image de Romanov. Romanov s'améliore dans ses relances, mais ce ne sera pas un gars qui va nous donner 40-50 points par année. Mais dans son rôle, je pense que ça peut valoir ça. Si on peut s'entendre avec lui, selon moi, c'est raisonnable, 4-4,5. Oui. T'achètes moi, j'ai pas de problème à signer. S'il demande 6, là, ben, là t'as peut-être problème. Un problème.
Ouais. Parce qu'il y a toujours le fond. Il y a toujours le fond, mais c'est plus avantageux la solution de Vincent, d'après Danny.
Ben, moi, je pense que oui, parce que le point le plus important dans ce qu'on discute, là, Vincent, tantôt, faisait référence au noyau que tu essaies de bâtir. Quand tu signes un contrat à long terme avec un joueur, tu y envoies le message. Là, t'es ici pour longtemps. Donc, Romanov, là, écoute, il joue pas dans les séries. Là, cette année, il est gêné. Là, il commence à se dégêner. Là, si tu lui offres un contrat puis il devient un joueur établi au sein de ton noyau, bien, c'est sûr que ça va l'aider à être encore plus le joueur qu'il doit devenir. Ça va l'aider. Il va prendre confiance. Il va savoir qu'il fait partie de l'équation. Il va être sur le portrait de famille. C'est des choses extrêmement importantes pour la suite des événements. Puis moi, je dirais simplement que, en terminant, moi, je pense que Schooneman, c'est un joueur qu'ils ne doivent pas négliger.
Ouais, je voulais justement t'amener là-dessus, parce que si on peut représenter le tableau des différents joueurs autonomes avec compensation, Corey Schooneman, c'est augmenter sa valeur.
Lui. Oui, c'est une belle surprise. Puis c'est un gars aujourd'hui, je sais pas, il y a quelque chose qui nous connecte, là, mais il a encore utilisé le fait que, Vincent, que Romanov, il vient pour jouer, il est premier sur la glace, il pratique, il s'entraîne, il a de l'enthousiasme. Schooneman, c'est pareil. C'est un joueur qui a de l'âge, mais c'est un gars qui il joue comme s'il était à sa première année. Il a 26 ans, mais lui, il arrive dans la Ligue nationale. Donc, c'est quoi qu'il veut? Et c'est un gars important, je pense, pour la suite des événements.
Mais c'est important pour les gars qui ont des restrictions. C'est pas eux autres qui ont le gros bout du bâton. Ouais. Et pour Kent Hughes, c'est important de maximiser ça, parce que pour Romanov, il n'y a pas le droit à l'arbitrage. Fait qu'il peut jouer la carte plus dur pour dire, garde, nous autres, on veut t'offrir un contrat de 8 ans, on veut te signer à long terme, on veut te garder dans notre noyau. Si t'es pas content, bien, tu retournes chez vous. C'est ça qu'on veut. Il n'y a pas le droit à l'arbitrage. Dans le cas de Schooneman, il peut aller devant un arbitre puis dire, bon, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis l'arbitre décide sa valeur est quoi, puis le Canadien décide s'il veut le garder ou s'il veut le laisser partir. Mais dans le cas de Romanov, c'est important qu'on négocie bien avec lui puis qu'on ne se trompe pas dans son cas. Parce que moi, les contrats de pont comme on a fait avec Subban, tout ça, c'est risqué. Parce que le gars, il se développe fort. Puis là,
ça coûte plus cher après.
Mais là, après ça, tu es pris à le signer pour 8 ans, mais à beaucoup plus cher.
Il y a des joueurs, quand tu prends cette décision-là, c'est parce que tu n'es pas sûr que tu veux investir pour plusieurs années. Mais si tu es sûr, pourquoi attendre?
C'est drôle, mais dans le cas de Subban, il avait raison de ne pas être sûr. Mais il a gagné le trophée Norris l'année qu'il négociait. Il a signé le gros contrat, puis après ça, ben on connaît la suite.
Rapidement, sur Ren Petlick, qui est une belle trouvaille. Bon, on est allé le chercher sur le balotage. Mais c'est un autre couteau suisse qui peut peut-être coûter moins cher que Paul Byron. Je sais que tu aimes beaucoup Paul Byron, mais...
Ben, j'aime beaucoup aussi Petlick. C'est un autre gars qui n'a pas vraiment... Il peut demander ce qu'il veut, mais... Le Canadien a ses droits. Fait que tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'attendre. Ils disent, si tu veux aller devant un arbitre puis dire comment est-ce que tu vaux, on va aller voir un arbitre puis plaide ta cause. On va plaider. Tu veux pas te rendre là parce qu'il faut que tu parles un petit peu contre ton joueur. Mais c'est des outils que Kent Hughes et le Canadien doivent utiliser pour essayer de payer le moins cher possible pendant que ça dure. Parce qu'après ça, c'est plus compliqué.
Exact. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Merci beaucoup, messieurs. On fait une courte pause. Au retour, Ray Lalonde.